Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont pertinentes, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Bien, je disais tout à l'heure qu'un patient peut attraper une autre maladie après son admission à l'hôpital. C'est des maladies qu'on appelle maladies nosocomiales. Alors, quelles sont les différentes sortes de maladies nosocomiales? Qu'est-ce qui les favorise? Quels sont les facteurs qui les favorisent? Et comment les prévenir? Si ce sujet vous intéresse, n'attendez pas les dernières minutes. Le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94 pour vous faire enregistrer. Nous allons tout de suite vous rappeler pour participer à cette émission. Docteur Cédric Ilunga, médecin à la clinique d'Alima, est notre invité. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend par maladie nosocomiale?
Bien, dans ce groupe de maladies, en fait, il faut entendre toutes les pathologies susceptibles d'être contractées au cours d'une hospitalisation. Maintenant, le gros lot de ces pathologies est repris par ce qu'on appelle les infections nosocomiales, donc dues à des micro-organismes. Et puis, on a celles qui ne sont pas infectieuses, qui peuvent être dues à des complications du fait de l'alitement prolongé d'un patient, comme les maladies thromboemboliques, c'est-à-dire la formation d'un caillot de sang au niveau des veines des membres inférieurs, par exemple.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les hôpitaux sont des milieux où il y a beaucoup de risques d'attraper des maladies?
Oui, je pense que le milieu hospitalier avant tout est un carrefour où se retrouvent des personnes qui viennent parce que porteurs de pathologies de différents types. Et donc on peut imaginer une mixité des germes, ne serait-ce que du fait de la pluralité des pathologies qui s'y trouvent. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que en règle générale, les patients hospitalisés sont des patients porteurs de maladies graves. Et donc, on peut très bien imaginer que le germe dont ils sont porteurs est un germe particulièrement virulent, susceptible de passer d'un malade à un autre au cours des manipulations qui sont faites par le personnel médical. Il y a également tout ce qui est inhérent à la pratique médicale même. L'exigence, par exemple, d'avoir une voie veineuse, un cathéter que l'on place dans la veine, c'est un risque que l'on fait courir au patient, mais qui est nécessaire au cours de son hospitalisation. Mm-hmm. Les différentes procédures invasives, comme la pose d'une sonde nasogastrique pour nourrir un patient, le sondage urinaire pour pouvoir évaluer sa durée, donc la quantité d'urine qu'il produit par 24 heures.
Oui.
Donc, il y a d'une part ce qui est inhérent aux gestes médicaux, et qui sont indispensables, mais autour desquels des procédures d'hygiène et d'asepsie doivent être appliquées. Si elles ne le sont pas, le patient est susceptible d'attraper donc des infections.
Souvent, on dit souvent que le matériel doit être stérilisé, le matériel utilisé à l'hôpital.
Oui, tout à fait. En fait, en milieu hospitalier, les procédures d'hygiène et d'asepsie doivent être le plus rigoureuses possible. Maintenant, il est vrai qu'il peut y avoir quelquefois, et même là où la médecine, entre guillemets, est plus avancée et plus poussée, il peut y avoir des failles dans les manipulations, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les pays organisés, les agences nationales des soins mettent en place, exigent que soient mis en place dans les hôpitaux accrédités, des comités qui sont chargés et de la prévention et du suivi épidémiologique des différentes infections nosocomiales, notamment avec certaines exigences. On vous dira par exemple qu'il faut un infectiologue et un hygiéniste par 250 lits de malades. Et ce comité doit régulièrement vulgariser les procédures d'asepsie auprès du personnel.
Ce n'est pas le cas dans nos hôpitaux. L'hygiène n'est pas de rigueur.
Non,
l'impression.
Non, quand on analyse globalement ce qui se fait en milieu hospitalier congolais, en tout cas dans les formations que j'ai fréquentées ou que l'on voit, il y a beaucoup à redire là-dessus. Il y a beaucoup à redire. Il y a des efforts qui sont faits, mais on ne peut pas parler d'asepsie sans moyens. Et c'est le nœud du problème.
Voilà. Donc, les facteurs de risque, il y a d'abord du côté corps médical, la manipulation du matériel, et de l'autre côté, du côté du patient.
Alors, de l'autre côté, il y a des patients qui sont en eux-mêmes, du fait de la pathologie dont ils sont porteurs, susceptibles à faire des complications à type infectieuse, par exemple, ou thromboembolique. C'est par exemple les patients immunodéprimés, c'est-à-dire tout le lot de patients dont le système de défense n'est plus en mesure d'assurer les défenses minimales de l'organisme.
C'est maladie, par exemple.
C'est notamment ce qu'on peut retrouver chez les patients diabétiques qui ne sont pas équilibrés, que l'on peut retrouver évidemment dans les infections à VIH, dans des maladies du sang, intéressant notamment les différentes lignées sanguines. On peut citer par exemple les leucémies, etc.
Voilà. Donc, ce sont ces patients-là qui ont ces genres de maladies qui sont capables de les développer et d'attraper d'autres.
Voilà, ces patients-là sont un peu plus sensibles que les autres.
Oui.
Pour un germe de virulence égale, un patient, par exemple, qui a une immunodépression est susceptible de développer une infection sévère alors qu'un autre se défendrait et la chose passerait inaperçue.
Nous avons un auditeur en ligne, c'est Maggie, je crois que Berry. Voilà, c'est une auditrice. Hein. Voilà, Maggie Sizanga de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi.
Alors, vous écoutez Maggie.
Oui, j'aimerais poser une question au docteur. J'aimerais savoir comment faire pour éviter une telle maladie, et surtout ici à Kinshasa, qui n'est pas facile de repérer, de connaître la mouche, et comment faire pour éviter que cette mouche on pique ou bien on transmette une telle maladie.
De quelle mouche vous parlez, Maggie?
La mouche cécée.
Ben, alors, on n'a pas parlé de la mouche cécée ici, Maggie.
Bon, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas bien, trop bien suivi. Mais j'aimerais savoir comment faire une telle maladie.
Voilà, merci docteur.
Voilà, donc en fait, la prévention des maladies nosocomiales, elle revient avant tout au personnel médical et à l'institution médicale en elle-même. Elle comprend notamment des notions d'asepsie rigoureuse dans la gestion des patients. Le personnel médical ne doit employer des procédures invasives que lorsqu'elles sont nécessaires. Il ne faut pas faire des sondages à tous les patients qui arrivent.
Et peut-être qu'on peut rappeler une maladie nosocomiale, c'est une maladie qu'on attrape à l'hôpital.
Exactement, qu'on attrape à l'hôpital. Mmh. En ce qui concerne les pathologies infectieuses, le milieu scientifique le définit assez clairement. C'est celle qui est contractée, une infection qui est contractée 48 heures après l'hospitalisation, après l'admission à l'hôpital, mais aussi dans la semaine après la sortie de l'hôpital. Elle est susceptible d'avoir été donc contactée lorsqu'on tient compte du temps d'incubation, c'est-à-dire le temps qu'il faut au microbe entre la pénétration et le développement de la maladie.
Donc, alors quand elle parle de la mouche cécée, peut-être qu'elle pense à une autre maladie.
La mouche cécée, il s'agit plutôt de la trypanosomie. Je pense peut-être que le thème a été annoncé à un moment dans.
Bien sûr. Voilà, donc pour prévenir ce genre de maladie à l'hôpital, il faut une hygiène rigoureuse.
Voilà, une hygiène particulièrement rigoureuse autour des patients, limiter.
Est-ce qu'on doit accepter les gardes malades? Souvent, il y a aussi des gardes malades qui sont à côté, qui apportent la nourriture, tout ça.
Oui,
il y a le risque. Hein.
Exactement. Je pense que c'est un peu pour ça, et malheureusement, il est difficile de réguler les visites dans nos hôpitaux parce que le gardien. Les patients sont l'objet d'un envahissement en termes de visite. Les visiteurs ne comprennent pas qu'il faut un horaire bien précis. N'oublions jamais que non seulement qu'on est susceptible d'apporter des germes à un patient, du reste vous ne savez pas de quoi lui il souffre, vous êtes susceptible aussi de contracter. Donc le temps de visite limité selon ses horaires, non seulement qu'il a un aspect pratique pour le personnel médical qui doit administrer des soins, mais également un effet préventif indirect, aussi bien pour le patient que pour les visiteurs. Et ça, c'est un réel problème
dans certains hôpitaux, on n'accepte pas des gardes malades. Ce sont les infirmiers qui s'occupent du malade.
Oui, en matière de visite maintenant, en ce qui concerne les gardes malades, en règle générale, gardes malades au chevet du patient. Il y a des pays et des structures comme la structure intensive ou de réanimation, même chez nous on n'accepte pas de garde malade au chevet du patient. Ailleurs, effectivement, on n'accepte pas de garde malade, mais là-bas, le patient est monitoré, les infirmières vous retrouvez une infirmière pour 2-3 patients, vous avez une structure hospitalière qui sert des repas, etc. Ce que nous n'avons pas chez nous. Les médicaments, lorsqu'on en a besoin dans ces milieux-là, on les prend dans une pharmacie, c'est rapporté sur la facture, et voilà. Mais ici, on est obligé de prescrire des médicaments à n'importe quelle heure, il faut qu'il y ait quelqu'un au chevet qui soit en mesure de faire tout ça.
Oui. Nous avons Aimé Minagou depuis le Tirol et patient Monica Ibantou de Kananga. Aimé Minagou, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody et à l'invité.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, j'ai des questions à l'invité. La première est de savoir si quels sont les indices qui caractérisent cette maladie, qui se dit nosocomiale. Et la deuxième est de savoir si cette maladie est contagieuse.
Bien, merci. Patient, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute ?
Oui, je voulais souligner que je suis infirmière dans la zone de santé de Demba, à Kananga. Et je voulais aussi préciser les causes. Moi, j'ai énuméré les trois causes pour les maladies nosocomiales.
Oui.
Premièrement, nous avons d'abord les infirmières elles-mêmes. De deux, nous avons les malades. De trois, nous avons les accompagnants. Cela veut dire que les agents, la transmission, c'était par manque des principes internationaux de la prévention des infections dans les milieux hospitaliers. De deux, nous avons du côté malade, c'est que il y a manque d'hygiène corporelle, vestimentaire tout comme alimentaire. Et là, pour ce qui concerne les accompagnants, c'est-à-dire le fait qu'il reste beaucoup de temps à côté des soi-disant malades, cela aussi peut causer des maladies. Par exemple, nous avons l'IRA, soit le paludisme, soit le TBC. Admettons que un accompagnant reste à côté du lit où il est en train d'assister son malade, aussi le fait qu'il n'y a pas un moustiquaire. Si les moustiques piquent à ce moment-là, en tout cas, peut-être qu'il y aura une évolution de la maladie dans son organisme, qui pourra se rendre compte qu'il est aussi attrapé par le paludisme. Et pour ce qui concerne l'IRA, vous savez, cette maladie est causée par le virus. Le fait de déterminer, soit de toucher, une personne peut quitter chez soi très bon, et en regard plus tard, il pourra aussi avoir des maladies par le contact, l'éternuement, soit de toucher. Mais là, pour les TBC aussi, c'est du même cas. Le fait que je voulais aussi participer.
Merci. Merci, patient de Kananga. Christian Mouzodi, vous êtes également à Kananga, dans la province du Kassai occidental. Bonjour.
Oui, bonjour, Serge Malé. Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ma question, celle-ci, j'aimerais savoir, j'ai un souvenir, soit que le personnel soignant qui est par exemple tuberculé et en s'approchant de tout ça, côté du malade pour le soigner, c'est contaminé de sa maladie. Bon, on va traiter ça parmi les maladies nosocomiales ou bien les maladies anthrogènes. C'est ça un peu ma question.
Merci, Christian. Bien, docteur Cédric. On commence par Aimé qui veut connaître des indices des maladies nosocomiales. Sont-elles contagieuses? D'abord, si vous pouvez revenir à combien des types de maladies nosocomiales nous avons.
Oui, précision, globalement. Oui, globalement, ce sont le gros, ce sont les pathologies infectieuses. Deuxièmement, on a des non-infectieuses qui sont en règle générale liées à l'alitement prolongé. C'est notamment, par exemple, les maladies thromboemboliques, la formation des caillots sanguins. Dans les vaisseaux sanguins, donc.
Et les non-infectieuses
Les infectieuses Les infectieuses, ce sont en fait toutes ces pathologies liées à des microbes. En règle générale, par ordre de fréquence, on retrouve des infections urinaires, ensuite des infections pulmonaires, les infections des plaies chirurgicales, celles qui sont liées à la pose des cathéters, notamment pour les perfusions, etc.
Bien. Et je veux savoir si ces maladies sont contagieuses ou pas.
Celles qui sont contagieuses, ce sont les maladies infectieuses. Elles sont contagieuses. C'est d'ailleurs une part du mécanisme s'explique par là, parce qu'en fait, un personnel soignant qui ne sait pas nettoyer les mains en passant d'un patient à un autre. de façon manuportée, en fait, emmène des germes d'un patient X vers un patient Y. Mm-hmm. Toute la contagiosité déjà est dans la procédure.
Il y a même certains patients qui ne peuvent pas se déplacer pour aller aux toilettes et puis, bon, ils font des besoins dans la chambre.
Exactement. Et donc, bon, déjà à ce sujet, par exemple, des patients susceptibles de porter de maladies infectieuses, par exemple diarrhées, ce sont des patients en principe qui devraient pouvoir occuper des chambres individuelles dans lesquelles ils ont des sanitaires à eux. Mm. Mais dans nos formations médicales, c'est pas toujours possible de le faire. Donc, vous avez un voisin qui n'a aucune pathologie infectieuse de ce type, parce qu'il utilise les mêmes sanitaires que quelqu'un qui a une diarrhée infectieuse, mm. Il est susceptible de l'attraper. Si pas lui, son garde malade.
Et donc voilà. C'est ça le danger.
Oui, c'est le danger, mais en fait, les mesures de prévention d'asepsie, c'est vrai qu'elles sont d'abord liées à un problème de formation du personnel médical, mais également, sans moyens, il est difficile d'arriver à... Parce que dans la plupart de nos formations médicales, il est quasiment pas possible que... enfin, on le retrouve presque pas, qu'il y ait des solutions alcooliques pour lesquelles on n'a pas besoin d'utiliser du savon et de l'eau, mm-hmm. Que les infirmières se baladent avec sur leur chariot de manière à ce que lorsqu'elles passent d'un patient à un autre, qu'elles puissent se désinfecter les mains. Même ces solutions alcoolisées-là, on ne les retrouve pas, alors que bon...
Et d'ailleurs, Christian Descanaga nous parle même d'un infirmier qui souffre de la tuberculose et qui continue à soigner les gens.
Bon,
c'est inadmissible.
Il faut peut-être distinguer deux choses. Hein. La première, effectivement, en matière de tuberculose, il faut savoir que chaque jour dans votre quotidien, dans le bus où vous êtes monté, dans la rue, etc., il est possible que vous soyez en contact avec des personnes qui sont porteurs. C'est d'ailleurs pour ça que le sanatorium, qui les isolait à l'époque, n'existe plus. Parce que, en fait, la tuberculose est dans la population générale en zone endémique comme la nôtre. Mmh. Maintenant, on peut très mal imaginer qu'un patient, un infirmier tuberculeux, ait toutes ses capacités pour pouvoir soigner. On suppose que, dans l'état où il sera, en principe, il sera en arrêt maladie, au minimum. S'il est sous traitement, il faut savoir qu'au bout de 2 semaines, en principe, la personne n'est plus contagieuse. Maintenant, il peut arriver que, en début de pathologie, il exerçait en ayant déjà débuté la maladie avant qu'elle ne soit diagnostiquée. Comme dans n'importe quel environnement, ça fait partie des risques. Hein. Comment voulez-vous que l'on mette de côté quelqu'un qui n'a pas encore été diagnostiqué? Bon. C'est compliqué.
C'est compliqué. Comment prévenir les maladies nosocomiales, les maladies qu'on attrape à l'hôpital, les questions et préoccupations? Appelez-nous au 081-890-6394.
Vendredi, c'est déjà le week-end sur Radio Capi. À partir du 1er juillet, de 17h à 19h, découvrez les meilleurs des programmes du week-end. Roundup, au Capi Week-end Matinal, le 9-13, Panorama économique, Zigzag, Métissage, les magazines des Nations Unies et Grands Témoins. Pendant les vacances, profitez du bonus week-end dès ce vendredi sur Radio Capi.
Comment prévenir les maladies nosocomiales? Docteur Cédric Ilunga, médecin à la clinique d'Alima, est l'invité de Capi Service. Nous avons en ligne depuis Kamina Okatanga, Tiston Mouzota. Bonjour Tiston.
Ah bonjour, monsieur.
Nous vous écoutons.
Oui, j'ai une consultation à l'invité.
Oui.
Concernant le diagnostic d'une maladie nosocomiale, est-ce qu'il est facile de diagnostiquer cette maladie nosocomiale sans que... On ne fait pas les examens paracliniques qui sont complets pour découvrir que le malade est entré avec quel autre pathologie.
Docteur, oui.
La préoccupation, c'est de savoir comment indemniser la victime ou le malade qui est victime de cette maladie nosocomiale ou de l'infection iatrogène.
Bien, merci, Fiston. Docteur Cédric.
Voilà, donc la première chose à dire, c'est que il faut, pour évoquer une infection nosocomiale, il faut déjà que le personnel médical soit alerte et puisse y penser. Ça, c'est une première chose. Après, maintenant, lorsque les faits rentrent dans la définition de ce qu'on appelle par exemple une infection nosocomiale, un patient qui arrive pour une pathologie, par exemple, non infectieuse, qui, au bout de 48 heures, se met à faire de la fièvre, présente des signes d'appel, par exemple pulmonaire, il se met à tousser, vous faites une radio, vous tombez sur un foyer pulmonaire qu'il n'y avait pas au départ, vous êtes déjà en droit d'évoquer une infection nosocomiale si le contexte également s'y prête. Un patient qui est arrivé, par exemple, en coma pour X pathologie et qui, au bout de quelques temps, développe des douleurs, quand il se réveille, par exemple, il développe des douleurs dans le membre inférieur, on fait une échographie du membre, on se rend compte qu'il a un caillot. Les mesures préventives thromboïdes n'ont peut-être pas été prises, parce qu'en règle générale, un patient qui reste habité plus de 48 heures doit bénéficier d'un traitement préventif des maladies thromboemboliques. Et donc, ce patient-là développe en fait une infection nosocomiale.
Est-ce que l'hôpital peut indemniser la personne qui a attrapé cette maladie?
Oui. Alors, je n'ai pas tous les contours juridiques, mais on peut très bien penser que là où les avocats, vous savez, en Occident, les avocats ont leur bureau pas très loin des hôpitaux, hein, ils sont à la chasse des erreurs médicales, etc. On peut très bien penser qu'effectivement, au civil, c'est des affaires qui peuvent se traiter dans la mesure où le lien de causalité a été établi. Mais ça peut être très compliqué aussi à établir. Hein. C'est pas évident.
Madame Angèle Toumba est en ligne. Elle se trouve où ça, Berry? Voilà, Madame Angèle est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Là, je vous suis dans ma voiture, j'entends le médecin qui dit que les infections nosocomiales, des infections qu'on attrape à l'hôpital.
Oui.
J'aimerais savoir si une fois qu'un malade attrape une infection à l'hôpital, les médecins sont assez sincères pour lui dire que c'est une infection attrapée à l'hôpital et dans ce cas-là, le prendre en charge.
Voilà, docteur Cédric.
Oui, je pense qu'en principe, il faut que le médecin clairement explique aux patients si les éléments sont certains, qu'il explique carrément aux patients qu'il est possible que les procédures qui ont été réalisées pour vous soigner aient été à l'origine d'une infection. Maintenant, en règle générale, dans les hôpitaux structurés, avant les différentes procédures invasives que l'on peut faire, on fait signer un papier au patient. Et dans ce document, il est clairement spécifié quelquefois qu'il peut y avoir des complications. On en discute quelquefois même avant avec le patient. Bon, maintenant, intégrer tout ça dans notre milieu où quelquefois la culture ou la compréhension du malade n'est pas toujours acquise parce que, bon, il est peut-être analphabète ou l'explication des termes techniques n'est pas toujours évidente. Bon, les gens ont peut-être perdu l'habitude d'expliquer les différentes procédures à leurs patients, mais bon, en principe, il faut que le personnel médical informe un patient des risques inhérents à sa prise en charge, ça c'est une chose. Et deuxièmement, lorsque des complications inhérentes à cette prise en charge arrivent, le patient a le droit à l'information en fait.
Le patient a le droit à l'information et est-ce que l'hôpital va s'engager à le soigner gratuitement parce que c'est une maladie qu'il n'avait pas, il a attrapé à l'hôpital?
Je ne vais pas trop me prononcer sur la question parce que je ne sais pas ce que la législation prévoit en cette matière. Il faudra peut-être distinguer dans ces deux situations celle qui peut être due à une faute médicale, par exemple parce que le personnel médical n'a pas appliqué des procédures d'asepsie, le patient se retrouve avec une infection nosocomiale, et celles qui sont attendues presque chez un patient qui subit une procédure invasive ou qui est alité. Il y a des infections, il y a des situations qui sont attendues. Mais il faut dire que là où les choses sont bien organisées, la naissance même de ces structures au sein des hôpitaux tient au fait justement que plusieurs situations de justice ont émané d'infections ou de maladies contractées en milieu hospitalier. Et donc, les milieux scientifiques ont pris ce genre de résolution pour qu'il y ait des comités qui s'occupe au sein de l'hôpital de la prévention de ces maladies.
Oui, il y a patients, par exemple, des Kananga qui nous a dit un malade est à l'hôpital, il y a plein de moustiques à l'hôpital, il n'y a pas de, de moustiquaire, ouais. Et le malade est piqué à tout moment, et si tu le gardes malade, et puis en rentrant à la maison, bon, on développe la, la malaria.
Voilà, bon, à ce sujet, on pourrait déjà commencer par se demander si chez lui, il y a moustiquaire, si chez lui, il n'y a pas de moustique.
Bon,
si il a
des moustiquaires,
on est vraiment là lié à un problème de moyens. Vous serez surpris que bon, l'hôpital ait installé des moustiquaires, mais parce que le garde malade qui n'a pas pu entrer est allé faire un trou dans un moustiquaire pour pouvoir passer de l'argent à la personne qui est au chevet du malade. Il y a des comportements inhérents même à la population qui se retrouve dans les milieux hospitaliers qui favorisent ce genre de choses. Après, maintenant, il y a une question environnementale. C'est vrai qu'un milieu hospitalier doit être assaini au maximum. Mais il y a des aspects qui relèvent en fait d'une politique beaucoup plus globale quant à par exemple à celle qui concerne le paludisme et tout le l'environnement qui favorise en fait
Il y a même certains hôpitaux où les toilettes sont très sales et quand les malades les utilisent bon, il y a risque d'attraper des infections.
Ah oui, exactement. Ça c'est des problèmes que l'on rencontre dans la plupart de nos hôpitaux publics en particulier et certaines formations privées également. Quelquefois, le problème, c'est les patients et les gardes malades qui ne savent pas utiliser correctement des sanitaires. C'est peut-être, ils ont peut-être l'habitude d'avoir des toilettes turques. Et quand ils se retrouvent avec des toilettes avec une cuvette, ils ne savent pas très bien les utiliser. Ou alors, c'est le service médical qui n'a pas les procédures qu'il faut pour maintenir une situation d'hygiène. Parfois, pour des raisons de moyens, parce que c'est un coût global de gestion, un problème de gestion quelquefois des hôpitaux, mais surtout un problème de coût. Et puis, il faut dire que il relève quand même des autorités sanitaires de mettre en place des structures de surveillance. Il faut contraindre en fait les gens à avoir un minimum d'hygiène dans leur environnement. Mais ça, c'est un problème beaucoup plus global. On peut l'étendre à nos marchés, on peut l'étendre à...
Alors, comment prévenir ces genres de maladies, les maladies nosocomiales au niveau des hôpitaux? Vous avez dit qu'il faut une hygiène rigoureuse.
Oui, il faut une hygiène rigoureuse. Il faut que les patients susceptibles de contracter des maladies nosocomiales, les immunodéprimés, les alités de longue date, que ces patients bénéficient de mesures de prévention. Il faut limiter les procédures invasives au strict minimum et au strict utile. Mais aussi, il y a un aspect que je n'ai peut-être pas abordé en début d'émission, c'est celui autour de la médication. Il y a beaucoup d'infections nosocomiales qui sont dues au fait que on abuse généralement des antibiotiques et ça fait la sélection des germes particulièrement virulents. Et ce sont ces germes-là qui sont susceptibles d'infecter et de rendre vraiment la tâche difficile au personnel médical en milieu hospitalier, etc.
Junior Bambou, vous êtes à Béni, bonjour.
Bonjour, Jody, et bonjour à l'invité.
On vous écoute. Et bonjour.
Oui, j'avais des questions à poser au docteur. J'ai bien suivi, c'était très intéressant, mais à moi, ce qui concerne les germes, qui peuvent donner les germes qui peuvent plus incriminer dans les infections nosocomiales. Et la deuxième concerne la maladie. Il y a beaucoup de maladies nosocomiales, et qui peuvent donner la quête de ces maladies qui soient la plus montée par rapport aux autres. Merci.
Merci, docteur, c'est bien.
Voilà, en termes. En termes de germes, d'une façon générale, chaque hôpital peut avoir un profil épidémiologique des germes les plus courants rencontrés. Ça demande des investigations assez poussées que malheureusement nous ne sommes généralement pas en mesure de faire dans nos milieux parce qu'on a un problème de plateau technique. Mais là où ces études sont faites, vous avez par exemple au niveau des infections urinaires qui sont les infections les plus courantes nosocomiales, vous avez un germe qu'on appelle l'Escherichia coli, simplement à cause de la proximité. C'est un germe qui est commensal, c'est-à-dire qui vit normalement au niveau du tube digestif. À cause de la proximité entre la voie anale et la voie urinaire, il arrive très souvent que ce germe-là soit impliqué dans les infections urinaires notamment. Au niveau pulmonaire, en règle générale, les infections nosocomiales se développent au décours d'une inhalation. Le patient qui est en coma ou qui reste alité longtemps, inhale des petites quantités, c'est-à-dire que ça passe dans les voies respiratoires. Ok, le contenu de la cavité buccale passe éventuellement par les voies respiratoires. Et donc là, ce sont des germes qu'on retrouve généralement au niveau de la bouche. Ce sont des streptocoques, des pneumocoques, qui finissent par être à l'origine d'infections.
Et quelle est la maladie la plus mortelle parmi toutes ces maladies-là? La plus mortelle, c'est laquelle?
Alors, le gros lot en termes de mortalité revient aux infections, pris de façon globale. Aux États-Unis, elles sont responsables d'environ 80 000 décès par an. Et là-bas, ils estiment qu'environ 5 à 10% des patients qui arrivent en milieu hospitalier développent une infection nosocomiale, soit dans les 48 heures, soit dans la semaine qui suit.
Et ici, c'est encore plus grave, j'imagine.
On imagine que c'est peut-être un peu plus grave, mais il faut dire aussi que, notamment l'aspect autour de la sélection des germes, elle est un peu plus importante là-bas. Si vous avez récemment suivi... par exemple, en France, les organisations sanitaires font de la vulgarisation pour qu'on réduise la pression antibiotique, en fait, parce que on abuse de l'usage des antibiotiques. Et donc, en abusant de l'usage des antibiotiques, on détruit un certain nombre de germes, mais les plus résistants ont un peu plus d'espace pour se développer. Et ce sont ces germes-là, en général, qui sont responsables d'infections nosocomiales. Donc, chez eux, l'abus d'antibiotiques qu'il y a eu pendant plusieurs années, ils sont en train de le payer d'une certaine façon à travers les infections nosocomiales. Bon, chez nous, il y a eu un petit peu moins d'abus, mais on peut très bien imaginer qu'avec les problèmes de sous-dosage de médicaments que nous avons actuellement, on est en train de préparer le lit de situations qu'on aura du mal à gérer pour l'avenir.
Bien, on va terminer avec cette intervention d'Edgar. Edgar de Canada nous envoie un SMS. Il dit, l'une des façons de lutter contre ces infections, c'est de demander au gouvernement d'ériger une infraction pour cas d'infection nosocomiale. Alors, c'est son point de vue. Bien, on s'arrête ici, Dr. Cédric Lunga. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin à la clinique d'Allemagne. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.